Chapitre 45. Ballard écarta juste assez les rayonnages pour gagner les étagères de 2002. Elle fit courir son doigt sur le dos des livres du meurtre et sortit le classeur qu'elle cherchait. Elle revint à son poste de travail, où Colline Interas l'attendait. « Quoi de neuf, Colline ?» lui demanda-t-elle. « Pas grand-chose. » « Je me demandais seulement si vous aviez besoin d'aide, » répondit Interas en lui montrant la boîte posée sur son bureau, celle que Ballard avait récupérée dans la benne à ordures derrière le magasin de Ted Rolls à Santa Monica. « Je pense m'en sortir, et on n'a toujours pas d'angle IGG là-dessus. Je pourrais passer quelques coups de fil, si vous voulez. Il n'y en a pas encore à passer. » « C'est la dernière des sept affaires possibles. Les six autres n'ont rien donné, à mon avis. »«
Que cherchez-vous exactement ?»«
Une affaire où il y aurait une chemise de nuit blanche, des chaussons en forme de lapin et un bracelet qui correspondent. »« Et probablement aussi avec un traumatisme par objet contondant comme cause de la mort, » répondit Ballard en s'asseyant et ouvrant le volume qu'elle venait de prendre. Elle alla droit au sommaire des premiers rapports d'incident. Vous voulez que je reprenne les dossiers? Je ne fais pas grand-chose en ce moment. Les trucs d'IGG sur Rolls n'ont rien donné, j'attends des réponses. Je pourrais reprendre ce sur quoi je travaillais avant, mais j'ai du mal à lâcher Rolls alors qu'il reste tellement de questions sans réponse. Et les souvenirs, ce n'est pas là-dessus que vous travaillez?
C'est ce que j'ai fait, mais je suis allé dans le mur. Je n'ai trouvé aucun lien avec une quelconque affaire en cours.
Ballard savait que si elle ne lui donnait pas quelque chose à faire, elle l'aurait probablement dans les pattes toute la journée durant. Que je vous dise, pourquoi vous ne prendriez pas ça pour voir ce qu'on peut y trouver pendant que je reprends cette dernière affaire ? Lui dit-elle en glissant la main dans la boîte en carton et en sortant le bracelet retrouvé dans la manche de la chemise de nuit. Elle l'avait déjà rangé dans un sachet à éléments de preuve en plastique et le lui tendit.
« Parfait, » dit Ateras. « Qu'est-ce que vous cherchez ?»«
Tout et le reste. Qui a fabriqué ce bracelet? Où il a été vendu? Il y a des initiales sur la pendeloque, enfin je crois que c'en sont, et j'aimerais bien savoir qui les a gravées et à qui elles appartiennent. J'ai déjà vérifié dans le catalogue des scellés et je n'ai eu aucune correspondance. Ce qui ne nous laisse que ceci, essayer de trouver d'où il sort. Je sais que ce n'est pas gagné d'avance, mais vous pouvez essayer, d'accord?
Ça marche.
Merci. Ateras s'en fut comme un chien avec un os, alors même que pour Ballard, sa mission était vouée à l'échec. Mais au moins, rien ne serait laissé de côté, et en plus, elle ne serait pas interrompue sans arrêt. Elle commença à lire le premier sommaire de l'affaire de 2002 qu'elle venait de sortir des archives. La victime s'appelait Belinda King. Elle n'avait que 21 ans lorsqu'elle avait été assassinée. Son corps avait été retrouvé sur le sol de l'appartement qu'elle louait dans la partie Oakwood de Venice. Étudiante au Community College de Santa Monica voisin, elle s'y initiait à la création littéraire. Ballard se rappela que Rolls avait lui aussi fréquenté le CC de Santa Monica. À peine quelques années avant elle, c'était probable. Mais il pouvait ne s'agir que d'une coïncidence. Belinda King remplissait presque tous les paramètres de recherche dans les archives numérisées qu'avait dressées Ballard. Elle les avait répertoriées en partant des articles trouvés dans la boîte de la benne et de ce qu'on savait de la façon dont procédait Rolls pour tuer. Dans l'esprit de Ballard, il fallait chercher une victime jeune, de sexe féminin et se faisant agresser par un inconnu qui entrait chez elle la nuit et ne laissait pas d'ADN derrière lui. Cette victime devait aussi être retrouvée nue. Rolls lui avait ôté sa chemise de nuit. La cause de la mort étant probablement des traumatismes par objet contondant, voire spécifiquement des coups de marteau. Détail supplémentaire. Elle pouvait aussi avoir un petit copain ou un fiancé qui lui avait fait cadeau d'un bracelet à pendeloque. Dernière case à cocher dans le protocole de recherche, l'affaire devait être non résolue. Elle obtint 7 correspondances, et l'affaire King se trouvait dans le 7e classeur qu'elle venait de sortir. Les 6 premiers n'étaient pas pour autant à éliminer, mais ne lui paraissaient pas totalement concluants pour diverses raisons. Elle espérait que celui-là le serait, mais en passant du sommaire aux photos de scènes de crime, elle eut vite fait de l'écarter de la liste des meurtres possibles de Ted Rawls. Si elle avait bien été retrouvée nue et battue à mort, pour Ballard, Belinda King avait la poitrine trop forte pour être à l'aise dans la chemise de nuit. En plus de quoi, les circonstances de l'affaire avaient amené les premiers enquêteurs à se dire qu'elle connaissait son assassin. Elle pouvait même s'être lancée dans un rapport sexuel consenti avant qu'il ne devienne violent. Il n'y avait en effet aucune indication prouvant une agression. Déçu, Ballard se renversa dans son fauteuil, referma le livre du meurtre d'un coup sec, le posa sur les volumes des autres affaires qu'elle avait sorties des rayons et décida de ne pas les remettre à leur place dans les archives. Elle allait demander à Bosch de lui confirmer ou infirmer toutes les conclusions auxquelles elle était parvenue dans chaque affaire, en faisant appel à sa longue expérience d'inspecteur des homicides. Elle mit de côté les frustrations qu'elle éprouvait après une journée de perdu, et décida de reprendre encore une fois les données de crimes numérisées par le service. Mais cette fois, en ne tenant pas compte d'un des filtres de recherche, histoire de voir si ça ne lui ramènerait pas d'autres affaires. Le filtre qu'elle laissa tomber étant l'obligation de ne prendre que des affaires non résolues, elle cocha la case « toutes les affaires ». Sa nouvelle recherche lui rapportant 9 autres extraits de dossiers comportant des similitudes. Les archives de la Manson ne comprenant que des livres du meurtre d'affaires non résolues, elle resta dans la base de données et se repassa les extraits numérisés, prête à noter tous les noms de victimes et numéros d'affaires qui pourraient nécessiter d'être analysés plus à fond. Cet examen, plus poussé, exigerait qu'elle retrouve les premiers enquêteurs et leur demande de ressortir leur dossier d'affaires résolu et de reprendre des interrogatoires. Elle fit rapidement le tour des 9 extraits, sans en noter un seul dans son carnet. S'il possédait des similitudes de méthodologie avec les meurtres de Sarah Pearlman et de Laura Wilson, les affaires dont il faisait partie s'étaient toutes conclues par une condamnation faisant suite à un verdict de jury, ou dans 2 d'entre elles un plaidé coupable. Ballard savait bien que n'importe laquelle d'entre elles pouvait avoir conduit à une erreur judiciaire, peut-être même après de faux aveux. Mais avec ces seuls extraits, il lui était impossible d'y trouver quoi que ce soit de douteux. Sous cette forme d'extrait, tous se réduisaient à des sommaires d'affaires pliées, agrémentées de photos de scènes de crime. Elle quitta la base de données et poussa un soupir de frustration en se rendant compte qu'elle avait passé sa journée à faire du surplace. Elle avait besoin du soutien d'Harry Bosch. Elle savait pouvoir se plaindre de perdre son temps devant lui et que sa réponse serait tout en paroles de sagesse et mots d'encouragement. Il lui rappellerait que dans une enquête pour homicide, il y a toujours plus d'impasses que de pistes conduisant à quelque chose. À ses yeux, c'était même l'équation de base, et un jour il avait comparé ce travail à un match de baseball. Les meilleurs joueurs ratent plus de la moitié de leurs lancers, et suivre des pistes n'a rien de différent. Elle sortit son portable, l'appela, mais tomba sur sa boîte vocale. « Harry, c'est moi, » dit-elle. « Rappelle-moi dès que tu peux. Il faut que je te dise toute la merde qu'a été cette journée. Bye. » Elle se releva, remit son portable dans sa poche et vit Hatteras toute courbée sur son bureau à son poste de travail à côté d'elle. « Colin, » lui dit-elle, « je vais aller faire un tour pour m'éclaircir les idées et me prendre un café à l'étage. Vous voulez quelque chose ?»«
Non, ça va, » lui répondit Hatteras.
« Vous saviez que c'était un médaillon, n'est-ce pas ?» Ballard s'était déjà éloigné de son poste lorsqu'elle entendit la question. Elle pivota sur les talons et repartit vers la terrasse. « Quoi ? » demanda-t-elle.
« La pendeloque. Il y a une charnière. Elle s'ouvre et il y a une petite photo à l'intérieur. »
Ballard se pencha par-dessus l'épaule de la terrasse et vit que la pendeloque en forme de palette de peintre était effectivement munie d'une charnière qui permettait de l'ouvrir comme un livre minuscule. Elle y découvrit le portrait d'un jeune homme avec des cheveux d'un noir de jais et un début de moustache au-dessus d'un large sourire. « Vous n'auriez pas dû sortir ça du sachet à éléments de preuve, » dit-elle. « Bien obligé, » lui renvoya à Terrasse. « Je n'aurais pas pu l'ouvrir si c'était resté dans le plastique. »« Je sais, mais je ne l'avais pas encore fait analyser pour recherche d'empreintes et d'ADN. » « Je suis désolé, je croyais vous avoir entendu dire que tout était déjà passé à la scientifique. »« Oui, sauf ça, on ne l'a récupéré qu'aujourd'hui. »
La Terrasse laissa tomber le médaillon sur son bureau comme si c'était un tison.
« Ça n'a plus d'importance maintenant, vous l'avez manipulé, » reprit-elle en regardant fixement la petite photo, puis se penchant en avant pour la voir de plus près.
Le jeune homme lui disait quelque chose, mais elle n'arrivait pas à le situer.
« Vous n'auriez pas une loupe par hasard ?» demanda-t-elle.
« Non, mais Harry en a une. Je l'ai vu s'en servir l'autre jour. »
Ballard rejoignit le poste de Bosch. Il y avait bien une petite loupe sur un tas de sorties d'imprimantes. Elle s'en empara et regagna le bureau d'Atterras.
« Permettez que je regarde. »
Atterras se leva. Ballard s'assit et se servit de la loupe pour agrandir l'image dans le médaillon ouvert.
« C'est forcément Géo, vous ne pensez pas ?» lui lança la terrasse.
Ballard garda le silence. Le jeune homme était clairement d'origine latino. Avec sa peau brune, ses yeux et sa crinière de cheveux noirs ramenés en arrière, elle identifia ce qui le lui rendait familier. Et se rendit compte qu'elle avait vu une version de ce visage à peine quelques minutes avant.
« Je pense connaître ce type, » dit-elle.
Elle se releva et regagna son poste de travail, tendant la loupe à Terrasse au passage.
« Vous le connaissez ?»«
Oui,
je pense l'avoir vu il y a une minute. »
Elle se rassit, rouvrit la base de données du service sur son écran, reprit sa recherche précédente et les derniers extraits d'affaires qu'elle venait d'examiner et ressortit immédiatement la photo d'identité du criminel condamné dans chaque affaire. Le septième extrait contenait celle d'un homme condamné pour avoir tué sa petite amie en 2009.
« Repassez-moi le médaillon et la loupe, » lança-t-elle à la terrasse. « Je peux toucher le médaillon ?
Vous l'avez déjà fait, apportez-le-moi. »
La terrasse s'exécuta. Ballard reprit la loupe pour regarder la photo de plus près, puis se retourna vers son écran pour effectuer la comparaison. Elle fut aussitôt certaine de regarder deux clichés du même individu. Si dans l'un il souriait, dans l'autre il avait l'air sombre. Elle se releva, fit signe à Terrasse de prendre sa place et lui tendit la loupe.
« Colin, lui dit-elle, regardez la trombine affichée à l'écran. « Comparez-la à la photo du médaillon et dites-moi que ce n'est pas le même individu. »
Atterras repassa trois fois de l'écran de l'ordinateur au médaillon avant de rendre son verdict.
« C'est le même type, » dit-elle, « absolument. »
« Ok. Et maintenant, laissez-moi revenir à l'ordi. »
Atterras se leva d'un bond et Ballard reprit vite son siège pour examiner les détails de l'affaire. Le condamné s'appelait Jorge Ochoa, avait 36 ans et purgeait une peine de perpétuité pour avoir assassiné sa petite amie, Olga Reyes.
« Jorge Ochoa, » dit-elle.
Il aurait pu américaniser son prénom et se faire appeler Georges.
« D'où Géo ?» dit Atterras. « Je crois que vous avez raison. »
Ballard griffonna le numéro de l'affaire et les noms de la victime et du suspect. L'extrait indiquait aussi le lieu du crime, Riverside Drive à Valley Village. C'était du ressort de la division d'Hollywood Nord. L'extrait ne comportait aucune photo de la scène de crime et les détails y étaient maigres. Cause de la mort, traumatisme par objet contondant. Mais cette classification tenant du fourre-tout, Ballard allait avoir besoin du livre du meurtre pour confirmer que l'affaire avait bien un lien avec les objets trouvés dans la boîte jetée aux ordures.
« Colin, » reprit-elle, « je file à la Vallée pour sortir le dossier de l'affaire. Je ne repasserai pas au bureau aujourd'hui.
Je peux vous accompagner? J'ai l'impression d'avoir quelque chose à voir avec ça, quoi que ce soit.
Oui, vous avez bien quelque chose à y voir. Vous avez fait du bon boulot. Mais ça, c'est du travail de terrain, et le vôtre, c'est l'IGG. Je vous verrai demain, si vous décidez de passer, et je vous mettrai au courant à ce moment-là.
Je serai là.
Ok, parfait, bon boulot, Colin, merci.
Ballard glissa vite son ordinateur portable et ses dossiers dans son sac à dos, prit sa veste Van Huysen accrochée au dossier de son fauteuil et se dirigea vers la sortie, sous le regard de Terras. Arrivée au parking, elle sortit son portable, appela Bosch à nouveau et eut une fois de plus droit au message où il demandait à tout le monde de lui en laisser un.
« Harry, dit-elle, c'est encore moi. Où es-tu ?
Je crois savoir à qui appartenait la chemise de nuit blanche. Rappelle-moi dès que tu auras ce message. » Elle rangea son portable et sauta dans sa voiture.